La peste porcine africaine est endémique sur le continent africain, c'est-à-dire qu'elle y est présente de façon plus ou moins latente en permanence. L'épidémie dont il est actuellement question a commencé en Europe de l'Est, en Géorgie plus précisément, en 2007. Elle est passée en Russie, en Arménie, en Azerbaïdjan. En 2014, on voit l'apparition du virus en Pologne. En 2018, il y a des cas rapportés en Belgique, au grand dam de l'Allemagne, un très important producteur de porc. Mais les médias font jusque-là peu d'écho à la peste porcine africaine. En août 2018, cependant, alors que la Chine est touchée sévèrement, la nouvelle devient plus importante, probablement parce que cette fois, on sait que les marchés vont être bouleversés par une demande très forte de façon à combler le manque de production des Chinois. Outre la Chine, une dizaine d'autres pays d'Asie sont actuellement confrontés à la peste porcine africaine. Des experts estiment que le virus est très probablement déjà présent sur le continent américain. S'il y avait éclosion de la maladie, cela signifierait, au Québec seulement, qu'au moins 40% de la production deviendrait excédentaire du jour au lendemain. Au récent Port Chaud à Québec, des spécialistes ont fait le point. L'animateur de ce panel, Vincent Cloutier, des éleveurs de porc du Québec.
En Amérique, la maladie laisse miroiter des prix comme on en a rarement vu. Mais en même temps, elle nous expose au risque probablement le plus menaçant de l'histoire de notre industrie. Mais si le cataclysme devait frapper, dans quel état d'esprit est-ce qu'on y répondrait? Surtout si le cataclysme devait frapper au cours des deux prochaines années, ben, selon toute vraisemblance, on aurait accès à des prix intéressants à l'échelle mondiale. Au-delà des promesses de marché, c'est à la composante risque et à sa gestion qu'on va s'attarder.
Premier exposé par Martin Pelletier, agronome et directeur général de l'équipe québécoise de santé porcine, qui réfère tout d'abord au contexte international.
La production de porc en Chine, 54 millions de tonnes métriques, et une consommation de 55,7, donc un pays qui était pratiquement autosuffisant avant la crise. Et ce qui est prévu, là, c'est qu'au cours de cette année et de l'an prochain, c'est un déficit d'approvisionnement d'une trentaine de millions de tonnes. Donc, toutes les exportations mondiales de porc, c'est moins que 10 millions de tonnes. Donc, c'est impossible que même toutes les exportations mondiales puissent combler le manque de viande porcine qui va se présenter en Chine et qui est déjà la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qui me préoccupe? Dans toute cette situation-là, évidemment, c'est le risque que la maladie soit introduite en Amérique et particulièrement au Canada et au Québec, ce qui fait que c'est important et crucial que tout le monde contribue à la prévention. Donc, on a tous des actions qui peuvent être prises au gouvernement fédéral, gouvernement provincial, les éleveurs, les abattoirs, les visiteurs. Donc, tout le monde a une responsabilité face au risque de propagation de cette maladie-là d'un pays à l'autre. Ensuite, au niveau du contrôle et d'éradication, on sait que c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui a les autorités légales et réglementaires. Et nous, le QSP et le MAPAC, on vient en appui de l'Agence si jamais il y a une intervention face à cette maladie-là. Et la gestion des impacts économiques et humains, bien, les partenaires de l'industrie vont avoir une responsabilité primordiale à intervenir donc, pour gérer ces impacts-là. Mais évidemment, ça va être difficile pour l'industrie de passer à travers une telle crise, si jamais ça arrive, sans des aides et des appuis gouvernementaux, autant du gouvernement fédéral que du gouvernement du Québec. Donc, nous, au niveau de l'QSP, il y a une structure en place qui a été mise il y a plusieurs années. Il y avait eu une première phase de développement de 2008 à 2012 environ. Et après, évidemment, on a été distrait par la diarrhée épidémique porcine, d'autres maladies émergentes et, évidemment, la menace de la PPA nous a vite ramené à continuer le développement et à mettre à jour ce qui avait été développé. Donc, je vous épargne les détails, mais tout ça pour dire qu'il y a une structure en place avec différentes équipes ayant différentes responsabilités qui visent à préparer le secteur à faire face et à aider à mitiger les impacts d'une potentielle crise sanitaire. Évidemment, le défi le plus important, c'est de comment prévoir l'imprévisible. Donc, on ne sait pas comment chaque éclosion de ce genre de maladie-là a ses particularités, se manifeste de façon différente. Donc, c'est toujours difficile. On essaie toujours de s'imaginer des scénarios pour voir comment on pourrait réagir, mais c'est très difficile à prévoir. Et sachant en plus que le Canada, c'est sans doute un des territoires, sinon le territoire qui est le plus dépendant des marchés d'exportation, puisqu'on exporte 70 % de ce qu'on produit, ce qui nous laisse, en cas d'une crise de PPA, où nos principaux partenaires commerciaux fermeraient les frontières à l'exportation de nos produits, du moins pendant un certain temps, avec un surplus de ports énorme à gérer. Donc, l'enjeu majeur dans tout ça, c'est comment gérer une action de dépeuplement des troupeaux et d'élimination des carcasses à grand volume, et pour des porcs dans trois situations, soit des porcs infectés à la ferme, ne peuvent pas sortir de la ferme, des porcs en quarantaine sur des fermes qui peuvent être pas nécessairement infectés, mais pour lesquels il y a des zones de restriction où il ne peut pas y avoir de déplacement. Et on a les autres, les porcs sains qui sont en surplus, sans restriction de déplacement, qui sont sur les autres fermes du Québec. Donc, le défi, c'est de comment être rapide et efficace, et tout ça dans le respect du bien-être animal et de l'environnement. Donc, on le sait, on le voit depuis plusieurs mois, la peste porcine africaine, c'est une menace pour l'industrie porcine mondiale. C'est sans doute la plus importante éclosion de maladies chez les animaux d'élevage. On a un marché mondial en effervescence, une hausse de 150 % du prix du porc en Chine depuis un an, qui fluctue donc et particulièrement à la hausse. Et c'est donc important qu'il y ait une mobilisation générale pour la gestion de tous les risques et la préparation si jamais on devait faire face à une telle situation.
Devant la menace et advenant l'éclosion de la maladie ici, que peut-on faire? La Dr Aline Dimitri, directrice exécutive de la Direction de la santé des animaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
En avril 2019, on a tenu un forum avec nos collègues américains, mexicains, avec l'industrie et d'autres observateurs pour développer un cadre qui pourrait nous aider collectivement dans les Amériques à avancer notre réflexion sur comment on gère cette maladie qui est dévastatrice. Ce qui en est ressorti, c'est un cadre avec quatre piliers. Le premier, c'est la planification de la préparation. Le deuxième, c'est l'amélioration de la biosécurité. Le troisième, c'est comment on maintient la continuité des activités et la communication des risques. Alors là encore, c'est toujours un peu le même refrain. On veut éviter de l'amener au pays. On veut être prêt si jamais ça arrive, mais si c'est ici, on veut essayer de maintenir un certain niveau de commerce parce que pour le Canada, c'est très important de pouvoir maintenir ces échanges commerciaux. Au-delà du travail qu'on a fait dans ce forum, dans l'espace de l'OIE, on a décidé d'utiliser un cadre existant qui est le cadre mondial pour la lutte progressive contre les maladies animales transfrontalières. Je vous mets au défi de le dire 5 fois d'affilée, sans trébucher. Dans le cadre de cette entente-là, on a établi un comité directeur pour se concentrer justement sur la question de la peste porcine africaine au niveau des Amériques. Et ce groupe-là a décidé en septembre qu'ils avaient besoin d'un groupe d'experts permanents pour les aider à vraiment bien comprendre la problématique et à rester aux aguets des derniers développements pour pouvoir continuer à être au devant de cette maladie. Parce que comme je vous ai dit, la première chose qu'on veut faire, c'est prévenir l'entrée de cette maladie dans la zone des Amériques qui aujourd'hui est libre de cette maladie-là et on veut continuer à avoir ce statut. Donc le travail à l'international est très intense. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'international, ce que l'OIE et la FAO ont dit, c'est que oui, il y a beaucoup de défis avec la peste porcine africaine, sauf qu'on ne peut pas utiliser un modèle pour toutes les régions dans le monde. Il y a des spécificités. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec la zone des Amériques, tout en maintenant un lien avec ce qui se passe à l'international au niveau de l'OIE et de la FAO. Mais la réalité, c'est que travailler à l'international, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi s'assurer que les assises ici au Canada sont bonnes. Alors, on travaille depuis 2018 avec l'industrie. On a développé un plan pan-canadien qui vraiment essaye de coordonner et d'identifier toutes les activités qu'on devrait faire encore là pour prévenir l'entrée et puis pour pouvoir agir si, du coup, ça arrivait au Canada. Et dans le cadre de ce plan pan-canadien, un certain nombre d'activités ont déjà eu lieu. Des chiens détecteurs, dont la première cohorte est déjà sur le terrain pour identifier. Nous avons mis des interdictions au niveau de l'import. Nous avons aussi commencé à communiquer avec les Canadiens ou les étrangers qui viennent au Canada pour s'assurer qu'ils sont sensibles à ce qu'ils peuvent apporter et l'impact que ça pourrait avoir sur le pays. Mais il y a deux choses qui sont vraiment fondamentales. La première, et ça revient à la continuité des affaires. On a commencé à travailler avec nos partenaires commerciaux pour discuter de zonage. Donc l'idée, c'est de pouvoir, si on avait à avoir cette maladie, d'identifier des endroits, des secteurs, des parties du pays qui justement sont libres de la maladie. Et ce que ça veut dire, c'est que dans le cadre de ces ententes, on pourrait justement continuer les échanges commerciaux. Mais là, ce n'est pas une baguette magique, et je vous le dis parce que c'est très important de s'en souvenir. Entre le moment où une détection se passe et le moment où justement ces ententes peuvent être activées, ça prend du temps. Parce qu'il faut pouvoir identifier ces zones. Donc des choses comme la traçabilité, comme la collecte d'informations, le maintien d'informations par rapport au mouvement des animaux devient extrêmement critique. Donc c'est très important de savoir qu'on travaille très fort pour mettre en place ces ententes, mais ces ententes ne sont pas magiques. Il y aura quand même du travail à faire si jamais on détecte la maladie dans le pays. La dernière chose dont j'aimerais parler, c'est au niveau de la recherche et du travail que nous faisons au niveau de la détection. Parce que la réalité, c'est que la détection, c'est le moment critique. Le plus on est capable de détecter très tôt, ça veut dire que plus rapidement on peut cerner le problème et on peut justement l'éradiquer, on peut le gérer. La difficulté qu'on a, c'est qu'au niveau du diagnostic, c'est difficile d'identifier la peste porcine africaine de la peste porcine classique, d'autres maladies, et donc on a dû travailler très fort à développer des tests. Mais non seulement des tests de dépistage, mais non seulement aussi des tests en laboratoire, des tests sur le terrain, des tests de validation. Et on a commencé à travailler avec le réseau de nos collègues aux États-Unis et au Mexique. Et ça, c'est sous le leadership de notre laboratoire à Winnipeg. Et l'idée, c'est de pouvoir justement avoir ces technologies au bout des doigts pour qu'on puisse avoir des détections très très rapides, des confirmations rapides et donc pour pouvoir agir rapidement. Depuis 18 mois, il y a eu beaucoup de travail. Ceci étant dit, je vais vous dire franchement qu'il y a encore du travail à faire. Mais l'important, c'est qu'on continue à avancer, à investir et à travailler avec nos collègues tant au niveau national qu'au niveau international. Mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est que quand on a commencé le travail à l'agence au niveau de la peste porcine africaine, l'industrie avait sonné l'alarme. Ils ont dit « ça c'est un vrai problème, on a vraiment besoin de votre aide ». Et la collaboration a été critique. Et même si on veut faire de la prévention, donc on veut prévenir, parce que prévenir c'est toujours mieux, donc éviter que ça rentre, la réalité c'est qu'il faut être prêt à guérir. Et dans les deux cas, ça ne peut pas se faire par simplement l'industrie ou simplement le gouvernement, quel que soit le palier. Il faut qu'on travaille tous ensemble, il faut qu'on collabore et ça va être difficile pour tout le monde parce que c'est une nouvelle façon de faire les choses. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas prévenir ni guérir si on ne continue pas à collaborer.
Et justement, la collaboration doit impliquer tout le monde. Toutes les entreprises, grandes ou petites, doivent se préparer et collaborer au plan d'ensemble. Sylvain Fournaise, vétérinaire et vice-président sécurité des aliments, service technique chez Olimel.
En Amérique du Nord, on est exempt du virus. C'est vrai dans l'industrie porcine, mais ne soyez pas surpris si on vous dit que le virus est peut-être déjà en Amérique du Nord. On ne serait pas surpris avec tous les produits qui sont importés illégalement, tout ça. Il y a sûrement des produits qui ont déjà transité au Canada ou aux États-Unis qui sont porteurs du fameux virus. Olimel également, on est excessivement impliqué autant au niveau de l'EQSP qu'au niveau international, au niveau de tous les comités qu'il y a au national. Donc, on participe à tous ces efforts-là. Et je dois dire qu'on assiste vraiment à une mobilisation vraiment très, très importante, autant des instances gouvernementales que de l'industrie, pour essayer de se préparer à ça. J'ai été demandé pour travailler auprès de l'OIE à la revision d'un programme de formation sur la peste porcine africaine. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on est un réseau d'à peu près 250 personnes qui travaillent sur la peste porcine à travers le monde. Et on a un forum d'échange et là, on apprend beaucoup de choses, surtout des pays qui ont à travailler pour éliminer le fameux virus. Puis je dois vous dire qu'il est excessivement persistant. Une fois qu'il va avoir à rentrer, c'est très, très, très difficile. C'est pas un virus qui est très contagieux si on le compare, par exemple, avec la fièvre aphteuse. Mais par contre, la plupart des experts s'entendent pour dire qu'ils ne comprennent pas exactement pourquoi ça s'est répandu aussi vite que ça en Asie. Donc, il y a beaucoup de questionnements autour de ce fameux virus-là. Vous entendez parler de zones et de compartiments. Il y a une grosse différence entre les deux. Les zones, c'est vraiment la zone de contrôle autour d'un site qui est connu comme étant positif officiellement. Un compartiment, c'est plutôt un groupe d'animaux dans lequel on dit qu'ils sont à l'intérieur d'un compartiment avec une biosécurité commune, avec aucune connexion avec l'extérieur, qui fait en sorte que si le compartiment est reconnu, même si la peste porcine était présente au Canada, ce compartiment isolé pourrait continuer à exporter sa viande. C'est ça qui est le principe, mais ce n'est pas simple à faire reconnaître et à mettre en place. Donc, le volet compartiment, il faut se souvenir, là, il faut travailler à mettre ça en place avant l'apparition de la maladie. Et il faut démontrer aussi que ce compartiment-là, il doit être en place durant 12 mois pour le faire reconnaître. Et en plus, il faut qu'il y ait un processus de surveillance du virus et tout ça. Donc, tout le volet compartiment, c'est une option, mais ce n'est pas si facile à mettre en place que cela. Donc, les impacts. Et là, c'est excessivement important. Qu'est-ce qui va arriver le jour 1? Dès qu'il y a une suspicion, il va y avoir des réactions. Et au moment où c'est confirmé, les frontières vont se fermer. C'est clair que tous les partenaires, la première réaction, les frontières vont se fermer. Et les frontières vont se fermer pour une bonne période. On anticipe de 4 à 6 mois minimum avant que quelque chose commence à bouger. Même si on a une entente de zonage avec les États-Unis, c'est sur le principe de zonage qu'on a une entente. Une fois que le cas est détecté, il faut déterminer comment qu'on a établi la zone, comment qu'on est en mesure de prouver qu'il n'y a pas de ramification avec l'extérieur de cette zone-là et que la viande autour, il n'y a aucun risque à être exportée. Ça va être des négociations avec chacun des pays. Là, il y a 2 ententes qui existent, les États-Unis et même si, après 3 mois, les États-Unis ouvrent leur marché, c'est pas ça qui va faire consommer beaucoup plus de viande. Il n'y a pas encore d'entente avec le Japon, c'est en cours. Puis il y a une entente avec l'Union européenne, mais so what, on n'exporte pas grand-chose en Union européenne. Donc, qu'est-ce qui est important dans la préparation que je fais chez Olimel? C'est de déterminer, bien, quel volume de viande on va avoir besoin au jour 1. Ça veut dire que du jour au lendemain, les frontières ferment et on ne peut plus exporter 1 kg de viande. Donc, ça va être quoi ces impacts-là? Puis, il y a plusieurs facteurs qu'il faut tenir en compte. Ça va être quoi aussi les conditions de marché? Ça va être quoi les prix? Ça va être quoi la consommation? Est-ce que les Canadiens vont réagir et arrêter de consommer du porc pour un bout de temps parce qu'ils vont avoir peur, même si le virus ne cause aucun problème chez l'humain? Également, il rentre 1 million de kilos de viande de porc des États-Unis au Canada. Est-ce qu'on est capable de fermer cette frontière-là pour pouvoir consommer un peu plus nos produits domestiques? Donc, c'est des éléments importants qu'on discute présentement. Et c'est clair qu'à partir du moment où on va prendre des actions, on travaille avec le gouvernement pour essayer d'avoir aussi un soutien financier, autant les transformateurs que les producteurs, pour passer à travers la crise. Sinon, ça va être vraiment dramatique comme catastrophe. Ce qu'on évalue pour combler le besoin domestique de consommation de viande, le vrai chiffre est à peu près 40-45% de ce qu'on produit. Donc, du jour au lendemain, si on a juste de la viande pour nourrir le Canada, c'est 45% de notre production actuelle. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on extrapole un peu puis on dit qu'il faudrait au minimum réduire du jour au lendemain cette production de 40%, ce qui veut dire qu'on garderait 60% de la viande. Puis là, il faut comprendre là, tous les problèmes que ça crée là, du moment où on arrête ça.
Ici Lionel Levac. Tout le monde souhaite que la peste porcine africaine n'éclatera pas dans nos élevages, mais le contexte ne laisse aucune autre possibilité que de se préparer pour la bloquer et l'éradiquer si elle apparaît. Au revoir.